Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Emmanuel Macron, Marine Le Pen, que vous inspire l'affiche du second tour de l'élection présidentielle française? Êtes-vous surpris par les résultats? D'autant que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la droite et les socialistes sont éliminés. Comment cette élection présidentielle est-elle perçue dans votre pays? Appelez-nous, vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Et nous sommes toujours en compagnie d'Eddy Fougé qui répond à toutes vos questions sur les programmes des deux finalistes, les enjeux du second tour, l'avenir politique de la France. Eddy Fougé, politologue, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je le dis depuis maintenant une quarantaine de minutes, beaucoup de questions, on va essayer de prendre durant les 20 prochaines minutes, qui sont les 20 dernières, Eddy Fougé, le plus grand nombre d'auditeurs. Avec nous, au standard, Simon. Bonjour Simon. Ah, on n'a plus Simon. Ah, Simon a coupé. Bon, bah, je me fais rapidement son porte-parole qui nous dit, mais quelles sont les stratégies que compte mettre en place le Front National pour arriver en tête au second tour? On rappelle que pour l'instant, de nombreuses personnalités de droite comme de gauche appellent à barrer le Front National, à empêcher évidemment une victoire du FN au second tour. Quelle sera la stratégie de Marine Le Pen durant les 15 prochains jours?
Alors, on le voit dans les éléments de langage qui fleurissent un petit peu dans les interventions des différents membres du Front National. L'objectif, c'est de refaire un petit peu le référendum de 2005 sur, vous vous souvenez, sur le traité constitutionnel européen, où finalement le débat est porté sur pour ou contre le libéralisme économique, l'ultralibéralisme économique, pour ou contre une Europe libérale, pour ou contre une mondialisation libérale. Et je pense que Marine Le Pen va mettre l'accent là-dessus, avec cette idée d'avoir effectivement pour elle, Emmanuel Macron, c'est un peu le casting idéal, d'avoir les mondialistes d'un côté, donc hors sol un petit peu, et puis les patriotes enracinés et qui vont être protégés par les frontières.
Donc le peuple d'un côté et les élites de l'autre.
Voilà, les élites arrogantes, pour reprendre une expression qu'elle a employée ce matin ou hier soir. Donc c'est cet élément-là qui va être mis en avant, et ça va être intéressant parce que de l'autre côté, on sent bien que, donc là c'est le référendum de 2005, le retour, et on sent bien que de l'autre côté ça va être le retour du référendum de 2002, à savoir est-ce que le Front National est compatible avec le cadre républicain, donc un référendum sur la République d'un côté et un référendum sur le libéralisme économique de l'autre. C'est ça qui va être l'enjeu.
En tout cas, hier soir, elle a insisté, le grand débat va enfin avoir lieu. Est-ce que vous pensez d'abord qu'il y aura un débat entre les deux candidats?
On se souvient
qu'à l'époque, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen.
Oui, justement, parce que Jean-Marie Le Pen se situait en dehors du cadre républicain à ses yeux. Là, ça va dépendre du point de vue des équipes de campagne. Ça semble... je pense qu'il y aura, un débat, ça va être intéressant à suivre, d'autant que Emmanuel Macron est un peu novice en la matière, et Marine Le Pen n'est pas nécessairement une foudre de guerre en matière de débat. Mais effectivement, ça va être un élément crucial pour, à mon avis, un certain nombre d'électeurs indécis, comme je le disais tout à l'heure, du côté de Dupont-Aignan, de François Fillon, de ceux qui ont voté pour eux au premier tour, et éventuellement du côté des électeurs de Mélenchon, qui se posent les questions, à savoir, est-ce qu'on choisit la grande alternance, pour reprendre l'expression de Marine Le Pen, ou quelqu'un qu'on n'apprécie pas nécessairement dans son programme, c'est-à-dire Emmanuel Macron.
En tout cas, vous avez cité trois candidats, Dupont-Aignan, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Ça signifie donc que Marine Le Pen dispose encore de réserves de voix au sein de l'électorat de ces trois candidats qui ne sont pas qualifiés.
Alors, des réserves de voix, elle n'en a pas énormément, mais potentiellement, son discours peut porter, notamment sur les questions d'immigration, de sécurité, d'islam, du côté donc de Dupont-Aignan et de Fillon, ou le discours plus sur la critique de l'Union européenne et de la mondialisation et du libéralisme économique, du côté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Tantelli nous appelle de Madagascar, il est à Antananarive. Bonjour Tantelli.
Bonjour M. Gomez, bonjour M. Fougé, et bonjour M. Titeur.
Nous vous écoutons.
Oui, ma question est de savoir comment Mme Le Pen et M. Macron pourront-ils disposer d'une majorité législative? Déjà, dans un premier temps, est-ce que M. Macron devra composer un gouvernement de consensus compte tenu de nombreux appels à un front dit républicain?
Alors, quelle majorité parlementaire, ça c'est la grande question de l'entre-deux-tours, Eddy Fougier. En cas de victoire dans 2 semaines, est-ce que Emmanuel Macron pourra gouverner? Est-ce qu'il aura une majorité à l'Assemblée nationale?
C'est la grande inconnue. Il y a au moins 2 scénarios qui peuvent se produire. Le premier, c'est que si la droite ne se déchire pas, ça commence un petit peu déjà ce matin, d'ici les 11 et 18 juin prochains, elle peut l'emporter et on peut avoir une cohabitation. Donc là, il y aurait une sorte de retour en arrière des années 80-90, une cohabitation entre une majorité de droite, un premier ministre de droite, on peut imaginer François Baroin, et puis Emmanuel Macron à l'Élysée. Ça, c'est tout à fait plausible. On peut imaginer aussi, là, ça serait pas un retour aux années 80, mais un retour aux années 40-50, une forme de renouveau de ce qu'on appelait à l'époque la troisième force, c'est-à-dire une sorte d'alliance démodérée. Donc là, on peut imaginer les macronistes, les bayrouistes, les valsistes, les juppéistes, je suis désolé pour ces néologismes, l'alliance des centres pour aller vite, et avec, à l'époque, c'était au tournant des années 40, des années 50, donc c'est modéré, cette troisième force, et puis il y avait deux oppositions, il y avait les communistes et les gaullistes, et là, on peut imaginer effectivement cette troisième force avec, d'un côté, la France insoumise, et puis le Front National. Donc là, c'est... on peut imaginer donc des majorités à géométrie variable en fonction des textes, en fonction des programmes. Donc ça serait effectivement une nouvelle forme de Ve République et quelque chose d'assez instable.
Marine Le Pen, elle peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale?
C'est à peu près la même problématique. Oui. Mais je pense que l'élection de Marine Le Pen serait un tel choc que ça aboutirait, ça serait un séisme, mais ça aboutirait effectivement à des dommages collatéraux, avec vraisemblablement un éclatement de la droite, une partie, l'aile droite des Républicains, Nicolas Dupont-Aignan, qui rejoindrait une sorte de nouvelle majorité, mais je ne suis pas certain non plus que Marine Le Pen, dans l'état actuel, et le Front National puissent avoir une majorité pour pouvoir gouverner.
Eunice nous appelle d'Abidjan. Bonjour Eunice.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Et bonjour RFI et bonjour tout le monde. Voilà, ma question est la suivante. Si Marine Le Pen arrivait à être élue présidente au second tour de l'élection présidentielle, alors j'aimerais savoir, dans les 100 premiers jours de son mandat, qu'est-ce qui changerait en France?
Alors il y a beaucoup d'échos, vous auriez dû peut-être vous mettre à l'extérieur pour qu'on entende mieux. Que changera, que si jamais Marine Le Pen est élue, quels seront ses premiers changements? Première décision.
A priori, l'une de ses premières décisions, ça serait de mettre en place d'organiser un référendum sur l'appartenance de la France à la zone euro, si ce n'est à l'Union européenne. Donc, effectivement, parmi les premières décisions, il y aurait vraisemblablement une fermeture des frontières de Schengen ou d'autres décisions assez symboliques pour montrer que la France, de son point de vue, reprend une souveraineté qu'elle a déléguée à l'Union européenne.
Elle a promis qu'elle ferait appel à des réservistes de l'armée pour rétablir les frontières immédiatement après son arrivée au pouvoir.
Exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est cette mythologie de la frontière que les mouvements populistes mettent en avant pour rassurer un peuple face à des élites cyniques et arrogantes, c'est l'élément sur lequel elle s'appuie pour pouvoir gagner, et ça serait certainement effectivement parmi les premières décisions qu'elle prendrait.
Autre question, Abdou qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Abdou.
Oui, bonjour Monsieur Johan.
Nous vous écoutons.
En fait, ma question est de savoir pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne donne pas un consigne de vote au deuxième tour des élections présidentielles.
Alors, il s'est bien gardé hier soir, effectivement, de donner des consignes de vote. Il dit « je veux consulter mes militants ».
Alors, il y a je dirais, une logique citoyenne, entre guillemets, donc cette idée de révolution citoyenne qui fait que le leader ne prend pas la décision et attend de consulter ses soutiens. Bon, au-delà de cette... simili langue de bois, il y aurait, je pense que il n'a pas nécessairement envie d'apporter immédiatement un soutien à Emmanuel Macron, parce que effectivement, en 2012, de nombreux soutiens de Jean-Luc Mélenchon étaient un peu échaudés par le fait qu'il veuille barrer la route du pouvoir à Nicolas Sarkozy en apportant son soutien à François Hollande. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il prend son temps en la matière.
Ouais, c'est un mauvais perdant, Jean-Luc Mélenchon. On l'a entendu hier soir dire bon, pour l'instant, je ne reconnais pas ma défaite tant que les résultats définitifs ne seront pas communiqués par le ministère de l'Intérieur.
Sans doute, mais je pense qu'il y croyait, cette fois il y croyait. Lui aussi avait l'impression que toutes les planètes étaient alignées. Il y avait une dynamique certaine depuis le premier débat à 5, le premier débat télévisé en France à 5. On voyait effectivement dans les enquêtes d'opinion des rumeurs comme quoi il était au coude à coude avec Marine Le Pen et que c'était jouable. Donc effectivement, il a dû accuser le coup. On le voit sur quand il intervient à la télévision, on voit qu'il est marqué.
Et il termine donc quatrième avec 19,6% des suffrages. Et justement, ce score est salué par Inès, qui nous appelle de Paris. Bonjour Inès.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes très satisfait du score obtenu par Jean-Luc Mélenchon?
Très satisfait, parce que Mélenchon, c'est parmi les meilleurs candidats, parmi les candidats français qui ont présenté un bon programme, raison pour laquelle j'ai vraiment été vraiment satisfait par rapport à 100%.
Qu'est-ce qui vous a plu dans son programme, Inès?
Mais dans son programme, Mélenchon nous a proposé pas mal de choses. Sa politique, par exemple, sur l'immigration, m'a vraiment convaincu et a convaincu pas mal d'électeurs, raison pour laquelle il a eu donc les 19,5%. Et puis, il y avait aussi son idée de la 6e République. La 6e République, déjà, lui, il se disait souvent dans chacun de ses meetings comme quoi, une fois élu, il va convoquer une assemblée constituante et il va donc demander aux Français de se prononcer sur la réorganisation de la vie politique française. Parce que on a constaté que de nos jours, la politique française n'est plus une politique qui était basée sur les idéologies. Aujourd'hui, on parle en termes de dynamique, de mouvement, de personnalité. C'est ce qui m'a séduit chez Luc Mélenchon. Et il y a une autre chose aussi, sa politique écologique, parce qu'aujourd'hui, on court un danger, le monde entier, y compris la France, comme mon pays d'ailleurs, le Congo, court un danger sur l'exploitation de l'environnement par l'homme qui ne permet pas et qui nous met dans une position où on risque de se retrouver un jour avec un monde qui sera vraiment dans une situation catastrophique.
Merci de nous avoir appelé, Inès. 10h53 à Paris, 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur Benoît Hamon. Défaite historique, il l'a reconnu lui-même hier soir devant ses militants. Kaba, bonjour.
Oui, bonjour Anne, et bonjour à votre invité.
Oui, il vous écoute attentivement, Élie Fougé.
Le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, est arrivé en 5e position avec un peu plus de 6% de voix. Alors, qu'est-ce qui explique la débâcle du candidat socialiste?
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Élie Fougé, c'est le pire score d'un candidat socialiste depuis 69. À l'époque, Gaston Defferre avait obtenu un tout petit peu plus de 5%, 5,01%. Qui est responsable de la défaite de Bruno Hamon et de l'échec des socialistes?
Alors déjà, Benoît Hamon l'a dit lui-même, on l'a entendu dans le son tout à l'heure, il paye en partie le quinquennat de François Hollande. C'est paradoxal parce que
il faisait partie des frondeurs,
mais il a été aussi ministre un petit peu de gouvernement Hérault et de gouvernement Valls. Donc il y a déjà cette impopularité des socialistes au pouvoir.
Enfin, ensuite, on pourrait dire, excusez-moi, la même chose d'Emmanuel Macron qui est resté au gouvernement jusqu'au mois d'août dernier, au mois de juillet dernier.
Sans doute, mais Emmanuel Macron est apparu comme un homme neuf, alors que Benoît Hamon, et d'ailleurs il s'en plaignait lui-même, avait cette image d'apparatchik du parti. Donc son image est beaucoup plus collée au Parti Socialiste que ne l'a été Emmanuel Macron, qui n'appartenait pas au parti. Ensuite, effectivement, il y a eu cette histoire des primaires qui a été sans doute une erreur. François Hollande le reconnaît aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est ce qui l'a amené à renoncer. Avec le choix qui a été fait par les électeurs, on peut le discuter, mais qui a été plutôt un choix identitaire, c'est-à-dire en fonction de d'une sorte de label de gauche plutôt qu'en fonction d'une efficacité peut-être potentielle dans le scrutin. Et enfin, il y a eu la concurrence de Mélenchon,
oui.
Parce que là, il s'est produit à gauche ce qui s'est produit avant la primaire des Républicains, à savoir les sondeurs appellent une fluidité, c'est-à-dire des électeurs qui hésitaient entre Nicolas Sarkozy et François Fillon et qui ont opté massivement en faveur de François Fillon. Ben là, on a eu la même chose entre Hamon et Mélenchon, avec cette idée un petit peu lepéniste, selon laquelle on préfère l'original à la copie.
Ouais. Il aurait peut-être dû tout simplement se retirer, Bruno Hamon.
Rappelez-vous, avant même qu'il ne soit désigné au second tour de la primaire, il y avait des rumeurs comme quoi, finalement, le pouvoir... François Hollande allait soutenir Macron et que le candidat socialiste serait obligé de se retirer au profit de Macron. Bon, là, ça aurait pu être au profit de Mélenchon.
Ouais. Delvy nous appelle. Également une question sur Benoît Hamon et les conséquences de son mauvais score. Bonjour Delvy.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
C'est une première en France. Lors d'une présidentielle, aucun des candidats traditionnels est arrivé au second tour. Quelles conséquences cela peut avoir sur le Parti Socialiste ?
Alors, quel avenir pour le PS, Édith Fougier ?
Alors déjà, on va voir s'ils peuvent avoir encore un certain nombre de députés. Alors, ils vont conserver un groupe ça, à l'Assemblée, ça n'est pas le problème. Mais, donc ça, c'est déjà le premier aspect. Voir un petit peu le niveau de véritable du Parti Socialiste dans l'électorat, parce que là, effectivement, il y a eu une sous-pondération liée à la campagne de Benoît Hamon. Ensuite, ça va être très compliqué parce que si Macron est élu et donc s'il met en place une nouvelle majorité qui récupère des proches de Manuel Valls, par exemple, on peut assister à une sorte d'éclatement du Parti Socialiste qui est à une restructuration à gauche avec... une sorte de Syriza à la française, donc pour faire référence à cette alliance de la gauche radicale grecque, qui serait emmenée par Jean-Luc Mélenchon et qui récupérerait les écologistes, les communistes et l'aile gauche du PS. Non. Et on voit bien que toutes les cartes sont rebattues.
Oui. C'est-à-dire que En Marche peut absorber une partie du Parti Socialiste et la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, peut... absorber encore une autre petite partie.
On peut imaginer ça. En tout cas, les chiffres du premier tour le montrent. Mélenchon a fait trois fois le score de Benoît Hamon. Les législatives montreront un rapport de force différent, sans doute. Mais on voit bien que là, l'avenir du PS est en suspens.
Alors, on parle du Parti Socialiste de Benoît Hamon. Stéphane, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes en région parisienne.
Oui, tout à fait.
On vous écoute. Vous souhaitiez parler du candidat socialiste.
Oui, d'abord je voulais, avant de commencer, féliciter les électeurs français pour leur choix clair contre les appareils et pour le renouvellement de la classe politique. Revenant précisément sur le Parti Socialiste, il faut avouer qu'il y a quand même, une tristesse dans ce qui s'est passé hier. Une tristesse d'autant plus que Benoît Hamon a fait une campagne contre son propre camp. C'est-à-dire que au sein du Parti Socialiste, il y avait des forces qui ont tout fait pour nuire à la candidature de Benoît Hamon. Et ça, c'est triste.
Ouais. On vous entend mal, mais on a compris cette idée principale dans votre argumentation, Édith Fougier. C'est vrai que quand on vit à l'étranger, on a du mal à comprendre pourquoi Benoît Hamon n'a pas été soutenu par l'ensemble du Parti Socialiste, alors que c'est lui qui est sorti vainqueur de la primaire initiée par ce même parti.
Alors, dans les éléments de langage qu'on entend ce matin, effectivement, la faute, ce sont les sondages et les traîtres. En gros, Manuel Valls. En même temps, je ne défends pas Manuel Valls, mais on peut comprendre Manuel Valls qui n'a pas voulu nécessairement soutenir Benoît Hamon, alors que Benoît Hamon et les Frondeurs, rappelez-vous, il y a un an, avaient tenté de déposer une motion de censure pour renverser son propre gouvernement. Donc il y a effectivement là la monnaie de sa pièce. Les Benoît Hamon et les Frondeurs ont eu la monnaie de leur pièce de ce point de vue.
Merci beaucoup, Édith Fougier, d'avoir été avec nous, politologue, et d'avoir répondu à quelques-unes des nombreuses questions que nous avons reçues au Standard. Avant de vous quitter, je vous rappelle que mercredi après-midi, nous serons à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour l'enregistrement de deux émissions. Venez nombreux à l'école Magic System d'Anoumabo pour débattre de l'actualité. Et demain, à ce micro, eh bien, vous serez avec Anne Cantener. Bon.